Bonjour à tous, je suis allée à la rencontre de Jean-Luc Tournier. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Myriam.
Alors Jean-Luc, nous étions rencontrés pour une interview il y a quelques années. Vous êtes le fondateur de l'association ITSI.
Itzai, ouais, itinéraire
Ah, on dit
citoyen.
ITSI.
Itzai, itinéraire citoyen.
Voilà, parce que ça vous tient à cœur l'engagement citoyen, mais sous quelle forme?
Alors, l'idée de l'association est née. Moi, je suis issu d'un milieu politique, syndical, j'étais militant politique, et tout ce qui a trait à la citoyenneté m'intéresse. Et donc, ça fait une trentaine d'années que je suis un chemin de découverte, un chemin spirituel, une voie spirituelle qui m'a éveillé un certain nombre de valeurs. Et actuellement, ma préoccupation devant l'état du monde, que ce soit au niveau climatique, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau même de notre vie, de nos contemporains, de nos concitoyens, de voir dans cet état qui est, on va dire, un peu préoccupant, mais vraiment venu comme valeur le fait de rapprocher ce qu'on trouve dans les valeurs spirituelles, de les rapprocher de la citoyenneté. Une citoyenneté qui se rapprochait des valeurs que véhicule la spiritualité, c'est-à-dire, il faut bien voir la spiritualité non pas en termes de dogme, ni en termes de religion, c'est plutôt en termes de science de l'esprit. Moi, je la vois un peu dans ce sens-là. C'est un principe qui est très très citoyen et ça véhicule des valeurs éthiques, des valeurs morales, d'engagement, d'altruisme, de partage, de tolérance, qui sont effectivement des valeurs qu'on retrouve dans la spiritualité. Et je pense effectivement que notre monde ira mieux dans la manière dont on gère la planète, dont on gère l'économie, dont on gère le voisinage, dont on gère une commune, si on part à partir de nous-mêmes, d'êtres qui sont conscients de ce qu'ils sont un peu en paix avec eux-mêmes, qui sont un peu en paix avec les autres. Donc, si on part de nous-mêmes pour essayer de tenter de construire un monde plus juste, on construira ce monde plus juste. Il faut bien savoir que si jamais j'invite la planète soit propre, si jamais c'est uniquement une idée dans la tête, je n'aurai pas le courage, effectivement, d'être préservant. Si jamais, ou tenace par rapport à cette idée-là. Mais par contre, si jamais effectivement ce sentiment de propreté ou de respect de la terre et de la nature et des autres prend sa source déjà dans le respect que je peux avoir de moi-même, automatiquement c'est une valeur qui est, on va dire, naturelle, qui se fait d'une façon naturelle. Je vais citer un petit exemple, bien pour illustrer ça, qu'on trouve bien dans notre société. Il y a 3 ans, j'ai vu un film qui m'a beaucoup bouleversé, qui s'appelle Demain. C'était un film qui a été fait par Cyril Dion et
Oui,
Mélanie Laurent,
oui, oui.
et donc qui mettait en place un certain nombre d'initiatives, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et puis, j'ai vu il y a quelques temps, il y a une quinzaine de jours, la suite de ce film. Le film qui s'appelle maintenant Après-demain ou Lendemain, je ne sais pas exactement, toujours par Cyril Dion, qui faisait le constat au bout de 3 ans, quelles sont devenues les initiatives. Et c'était l'exemple d'une ville, d'ailleurs que je connais bien, c'est la ville de Vienne, parce que j'y suis né, où le film de Lendemain avait créé un engouement qui était fort puissant. 3 ans après, il n'y avait plus rien. Parce que pourquoi, effectivement, c'était des idées généreuses, des bonnes volontés, des gens qui ont envie de se bouger, tout ce qu'on trouve dans le milieu associatif, mais qui était, c'est à ce niveau de la tête.
Oui.
Les tripes, on va dire, l'intériorité de l'être n'était pas concernée. C'est pour ça que la valeur spirituelle se rapprochant des valeurs citoyennes sont importantes, parce que la valeur spirituelle amène, par ce souci que l'on a de notre propre être, de le mettre en ordre, de le mettre en paix, de le mettre en état de justesse
Oui.
par la connaissance de soi, fait qu'automatiquement, l'extérieur, on projette les mêmes valeurs. Quelqu'un qui est propre à l'intérieur lui-même ne peut pas plus salir la planète, ce n'est plus possible.
Oui.
C'est comme s'il salissait là et ça lève un sentiment de dégoût.
Oui, donc ça apporte aussi comme une solidité, comme un engagement
Oui.
dans la durée, en fait.
Oui, voilà, ça laisse quelque chose qui devient comme on a acquis le fait de se laver tous les jours, parce qu'on vit en société maintenant et que on trouverait désagréable de rentrer dans une assemblée, que ce soit le monde du travail, que ce soit dans un bus ou que ce soit dans notre environnement familial, en arrivant sale, délingué, comme on pouvait l'être au Moyen-Âge ou même pire, au moment de la Renaissance, où effectivement les gens n'avaient pas le souci de l'hygiène du corps, parce que Et donc, ça ne les préoccupait pas, effectivement. Et ben, c'est pareil, maintenant, notre hygiène d'esprit fait effectivement qu'on va se sentir mal à l'aise si demain, effectivement, on est des pollueurs, si demain on salit, si demain on est en état d'intolérance, parce qu'effectivement, ça ne correspondra plus à notre intériorité. un intérieur, et puis je le vois, moi, c'est un homme, je vais vous mettre un petit exemple, je suis un homme profondément en désordre. Je suis quelqu'un qui a vécu dans le désordre, et donc mon bureau était quelque chose qui était assez anormal, parce qu'il y en avait partout. Mais le travail de connaissance que j'ai fait de moi-même m'a permis effectivement de mettre un certain ordre intérieur. Et bien cet ordre intérieur a rejailli de façon naturelle sur l'extérieur. Il m'est impossible maintenant de commencer une matinée avec mon bureau en désordre. Ce n'est pas possible. C'est comme si jamais je me mettais un coup de couteau. Donc, il faut extrapoler ça au niveau de la planète. Si demain, effectivement, les êtres sont suffisamment respectueux d'eux-mêmes, mais jamais il en viendra à l'idée d'acheter du plastique pour qu'ils finissent dans une mer, comme c'est le cas actuellement. Oui. S'ils sont assez respectueux d'eux-mêmes, assez tolérants, assez justes avec eux-mêmes, jamais ils pourront tolérer les inégalités financières que l'on a actuellement. Et si jamais ils sont en état de paix, mais ça deviendra impossible de créer un procès à son voisin simplement parce qu'il y a 5 cm de limite de propriété qui ne sont pas respectées. Ça sera impossible.
Oui, oui.
Voilà, donc c'est cet état naturel en partant de nous-mêmes qu'il nous faut acquérir et qui va rejaillir sur cet état-là. Donc effectivement, itinéraire citoyen, ça invoque 2 choses. Ça invoque le fait qu'on a un itinéraire, qu'on a un cheminement à faire. Parce que ça ne s'acquiert pas.
Personnel.
Personnel, ça s'apprend. C'est quelque chose qui s'apprend. Et que citoyen, parce qu'effectivement, on a en charge tous le bien-être de notre pays, de notre société, de notre humanité. Et donc, ça se retrouve dans les valeurs citoyennes.
Et donc, vous, votre manière de le proposer à la société, en tant que citoyenne, donc c'est à travers cette association, vous avez aussi un engagement politique ?
Oui, tout à fait, bien sûr, un engagement dans ma commune. Il est sans étiquette parce que je suis dans une petite commune.
Ah oui, vous n'êtes pas dans notre région, vous êtes...
Oui, je suis dans l'Isère, dans le sud de l'Isère, à la limite entre l'Isère, la Drôme et l'Ardèche. Oui. Voilà, un pays qui est connu pour son fromage, le pays de Saint-Marcellin, où on fait d'excellents fromages. Et donc là, bien sûr, on y est nouvellement habité. Hein. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais on n'aura peut-être pas le temps. On vit cette expérience dans une maison de partage actuellement, avec d'autres frères de chemin, on va dire comme ça. Et donc, bien sûr, au bout de 3 ans, on est venu me chercher pour faire partie d'une liste pour les prochaines municipales. Et donc, je suis dans une liste, effectivement, pour la gestion de ma commune. Ça me paraît quelque chose de naturel.
Encore une fois, c'est de la conséquence de... logique de votre parcours.
Complètement.
Et donc, dans cette association Itinéraire Citoyen, vous proposez aussi un théâtre d'éveil spirituel. Et alors là, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, ce que je peux dire, c'est que je crois qu'on aide bien les gens là où, effectivement, nous, on a eu nos propres difficultés. Il faut bien savoir que moi, quand j'ai eu 30 ans... l'être que j'étais à 30 ans, qui était quelqu'un de très très entreprenant, j'étais directeur d'une maison des jeunes sur Grenoble, et j'étais quelqu'un plein d'imaginaire, d'imagination, qui brassait des projets, mais qui n'avait aucune sens des réalités de gestion, qui n'avait aucune sens des réalités de la comptabilité, de l'administration, ce qui fait que très vite, dans le cadre de ces actions, j'ai été contacté par 2 personnes et on est parti sur une aventure de créer une entreprise d'insertion professionnelle pour des jeunes autour des métiers de l'imprimerie. C'est quelque chose qui a très bien fonctionné pendant 2 ans. Et un jour, les 2 personnes avec qui j'étais sont parties en mettant la clé sous la porte, en emportant la caisse et en laissant effectivement une société qui avait un gros, gros découvert. Et pendant 15 ans de ma vie, j'ai dû payer effectivement pour les autres le fait de cette erreur, de cette inconséquence. Je m'étais porté caution, moi je la gérais à distance, et l'absence de gestion, l'absence de comptabilité, l'absence et la malhonnêteté des 2 personnes qui étaient des gens malhonnêtes, hein, j'ai su par la suite qu'ils avaient été emprisonnés pour d'autres méfaits parce que c'était des escrocs. Donc, m'a mis dans une situation, on va dire, très compliquée à l'âge de 30 ans. J'avais une dette qui représentait l'équivalent d'une maison.
Donc,
une maison, c'était assez conséquent. J'ai perdu mon travail, d'ailleurs, de coup, parce que j'ai créé un tel désordre de ce fait-là. Donc, j'étais au chômage, je venais de me marier. J'avais une dette, effectivement, qui représentait à peu près une maison. Et c'est là qu'au détour dans cette préoccupation, on est en 87, et je croise la route d'un homme qui s'appelle Bernard Monteau, qui venait de créer, lui, une école de la vie intérieure. Je n'étais pas du tout sensible à ça, j'étais plutôt militant politique à cette époque-là. Et donc, je lui fais part de ces problèmes-là, parce que l'être, comme il était, cet être qui respirait, lui, au fond de lui, l'ordre, la rigueur, m'attirait un petit peu. Et je lui confie ses problèmes en disant j'étais victime de deux escrocs là, et maintenant je dois payer, comment je peux faire pour m'en sortir. Mais il me dit, je pose cette question qui était bizarre, mais t'es responsable où toi? Et je me suis dit, mais moi je suis pas responsable, moi c'est pas possible, j'ai été arnaqué par deux escrocs quoi. Et puis il m'a dit une deuxième question, mais qu'est-ce qui a fait que tu as besoin dans ta vie de passer toi aussi pour un escroc parce que tu as été viré de ton métier, tu as été associé à cette bande de malhonnêtes. Qu'est-ce qui fait que dans ta vie tu as besoin de ça? Il m'a posé deux questions qui ont un peu bouleversé ma vie, qui ont été le début de ce chemin. D'ailleurs, plutôt qu'essayer de chercher les raisons extérieures, d'essayer de trouver comment j'allais pouvoir payer, d'essayer d'effacer cette erreur le plus vite possible,
oui.
Et mon être un peu désordonné de l'époque cherchait des solutions un petit peu à la limite de la légalité, c'était pas quelque chose qui était pensé. Plutôt qu'essayer de chercher ces solutions extérieures, de refuser de voir effectivement ce qui s'était passé et pourquoi j'en étais arrivé là, j'ai fait un travail donc, de connaissance de moi pour comprendre les raisons de ce problème. Et donc, du coup, pendant 10 ans, je suis retourné sur les bancs d'une école, qui n'est plus une école de la vie extérieure. Là, j'ai appris à me connaître, plutôt qu'à connaître la vie. Donc, voilà. Je me suis assis et j'ai appris à me connaître.
Et oui. Ah ben, c'était ma question sur votre parcours. Donc, voilà, ça fait partie de votre cheminement.
Oui, tout à fait. J'ai compris l'être que j'étais. J'ai compris, effectivement, les endroits où j'avais besoin dans ma propre vie, de créer des événements qui me fassent me retrouver dans des situations qui étaient complexes, compliquées. Et comme j'étais quelqu'un qui était assez sourd d'oreille, assez, on va dire, carapacé, qui avait besoin d'une carapace pour se protéger de son intériorité, je ne voyais pas les choses, je refusais de les voir, j'avais un sens, une appréhension de la réalité qui n'était pas du tout juste, ce qui fait qu'il fallait que la vie cogne fort. Donc j'ai perdu des emplois. J'ai eu cette dette-là qui a été monumentale, qu'il m'a fallu payer centime après centime. J'ai mis 10 ans pour ça. J'étais dans un métier qui n'était pas véritablement un métier. C'était quelque chose qui était plutôt de l'ordre de l'amusement, on va dire, qui avait pas de suite, même si le titre était pompeux, directeur d'MJC. Donc là, ce travail de connaissance de moi m'a fait me comprendre, m'accueillir, m'accepter, plutôt de me rejeter, de me comprendre comment ça pouvait fonctionner. Et de là, j'ai entrepris vraiment ce qu'on appelle un chemin d'acte. Avec l'accompagnement de patient de Bernard Montault, l'accompagnement de patient après d'une personne qui m'enseignait, qui s'appelle René Chaput, un accompagnement patient encore d'un troisième homme qui est rentré dans ma vie, qui s'appelle Alain Sicot, avec lequel je suis toujours en relation.
Mmh.
Et donc, progressivement, effectivement, j'ai appris à me comprendre, à me connaître et à poser des actes. Ce qui fait que j'arrive en fin des années, dans les années 92-93, à me retrouver administrateur d'un théâtre. Administrateur d'un centre culturel qui était vraiment... et d'avoir là, je vais dire, sur la couronne lyonnaise, j'ai été finalement un administrateur réputé, on va dire comme ça. Moi qui étais un ancien magouilleur, des choses pas très claires, des choses qui étaient en désordre, j'étais comptable public, donc je gérais la comptabilité publique. Et donc j'ai créé des méthodes et des moyens, effectivement, pour les théâtres municipaux à l'époque où il y avait une réforme importante des lois Sapin, d'un ministre qui s'appelle Sapin, qui a effectivement un peu mis de l'ordre dans la vie, les relations dans la vie municipale. Donc j'ai pu avancer sur différents types de parcours, ce qui fait effectivement que j'étais un peu le conseil dans l'agglomération lyonnaise de manière de gérer un centre culturel de façon municipale, privée. Voilà.
Ce qui est assez incroyable. Donc on se rend compte que finalement, par l'accueil de ce que vous étiez, par la compréhension, l'acceptation, l'accueil de ce que vous étiez, eh bien, vous êtes devenu un autre.
Oui, complète, c'est sûr.
Sans chercher à vous changer, vous avez changé.
Oui, c'est ça, c'est ça. C'est un peu ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que le fait d'avoir mis un ordre intérieur, le fait d'avoir mis une certaine rigueur dans la recherche, le fait d'avoir donné une rigueur et un ordre extérieur qui s'est traduit après par un métier qui était très rigoureux, qui était complexe et qui était engageant, on va dire comme ça, et qui m'a permis effectivement d'arriver dans les années 2002 avoir vraiment sur la couronne lyonnaise un impact et vraiment une gestion de métier qui était quand même qui était une réussite professionnelle importante.
Ah oui.
Qui partait effectivement à 30 ans devant quelque chose qui était un peu n'importe quoi.
Et puis on sent aussi dans ce que vous nous racontez de vous qu'il y a des personnes qui vous ont inspiré sur votre chemin, que tout seul peut-être ça aurait été moins facile.
Ah ben c'est déterminant. Je crois que je ne rencontre pas Bernard Montault. Je ne sais pas si je finis pas en prison, ça c'est clair. Parce que je n'avais pas de modèle d'existence autre que les deux escrocs avec lesquels j'étais. Et que si jamais j'avais continué ce scénario, catastrophe, qu'il fallait que la vie me cogne de plus en plus fort pour me faire réagir, parce que c'est un peu ça, comme ça que je pourrais comprendre les systèmes, et de ne pas les voir et avoir la nécessité au fond de moi-même de me désunir, on va dire, avec les éléments, on va dire, de base d'une bonne citoyenneté, c'est-à-dire la bonne gestion, la bonne réglementation, etc., etc. Peut-être, effectivement, j'aurais fini dans des... Je serais peut-être pas été, effectivement, dans la... J'aurais pas eu du tout ce profil-là. Donc, la rencontre avec Bernard Montault, elle était essentielle. Elle dure, hein, depuis... Elle dure depuis 30 ans. C'est quelqu'un que je lâche pas, qui me... avec lequel j'ai une relation qui est forte, parce que il a toujours, on va dire, comme un grand frère de chemin ou un père, il a... ou un maître, je dirais plutôt un maître spirituel, moi, comme on les a dans les traditions japonaises autour des arts martiaux, quelqu'un effectivement qui est tellement de puissance, là on se sent tellement sans puissance, qui nous donne envie d'être franchir les pas. Donc il est toujours 3 km devant, je pense toujours que je vais pouvoir un peu rattraper cet espace, mais non, et du coup ça me fait progresser. Donc, si je suis aujourd'hui...
On pourrait dire, peut-être rappeler qu'il est écrivain, et, oui. Et notamment de César l'Éclaireur, dont, voilà, dont j'ai proposé le feuilleton radio pour le petit clin d'œil, pour resituer pour les auditeurs de notre radio.
Très bien, oui, c'est bien qu'on puisse faire ce rapport-là, c'est sûr. Écrivain, conférencier, chercheur, passionné de la nature humaine.
Psychanalyste corporelle.
Psychanalyste corporelle, fondateur, effectivement, de cette science qui est magnifique. Et donc aussi fondateur d'un mouvement spirituel, spirituel en termes de liberté d'esprit. Moi, je le redis, ce mot, il n'est pas l'apanage de la religion. Il s'inscrit dans la citoyenneté, il s'inscrit dans la laïcité ouverte. Et donc, effectivement, par contre, c'est quelque chose qui nous donne un moyen codifié et, on va dire, puissant, pratique, concret, de passer d'un état moyen d'être, comme je pouvais l'être dans les années 80, quelqu'un effectivement qui avait très peu de conscience de la réalité des choses, à quelqu'un maintenant qui a les pieds sur terre et qui sait effectivement servir de soi-même pour pouvoir trouver les actes justes.
Et voilà. Donc dans votre parcours de directeur de théâtre, parce que c'est pas anodin, parce que je reviens à ce que vous proposez aujourd'hui comme outil de connaissance de soi dans votre association. Vous utilisez le théâtre, alors peut-être vous allez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que vous proposez,
oui.
Le théâtre pour se connaître.
Alors le théâtre, pour moi, ça a été quelque chose d'important. Je ne suis pas du tout comédien, j'ai vécu plutôt le théâtre du côté du point de vue administratif, mais là aussi j'ai fait des très belles rencontres. J'ai fait une très belle rencontre avec un directeur qui s'appelle Jean-Marie Bill, qui était mon directeur artistique pendant 10 ans, on a collaboré pendant 10 ans, et qui m'a ouvert vraiment cette sensibilité de l'écriture, cette sensibilité de la mise en scène, que je ne connaissais pas. Et j'ai rencontré beaucoup de metteurs en scène qui m'ont bouleversé. Pierre Belletante, Jean-Luc Bosque, Thierry Chantrel, qui ont été sur des gens qui m'ont beaucoup, effectivement, ou dans la chorégraphie, Maryse Delande, Josette Baez, qui ont été des gens qui m'ont beaucoup touché, qui m'ont beaucoup touché, qui m'ont ouvert cette sensibilité, on va dire, créative, imaginative. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à 27, entre 20 ans et 30 ans, surtout effectivement entre 28 et 30 ans, j'ai laissé part à un imaginaire qui était très débordant. Je suis quelqu'un de créatif et très imaginatif. Mes épreuves m'ont mis effectivement du côté pragmatique et du côté un sou est un sou, les choses sont claires. Et du coup, effectivement, le théâtre me renvoie maintenant à cette notion de d'écriture, de créativité qui est nécessaire dans nos vies. Et donc, voilà, le théâtre, je l'ai vraiment connu comme ça. Et donc, un de mes premiers pas, dans lequel m'a beaucoup encouragé Bernard, c'est écrire une pièce de théâtre. Et dans les années 93, j'ai écrit une pièce de théâtre. Et c'était vraiment, quelque chose qui m'a fait effectivement me découvrir dans un certain talent artistique autour de l'écriture. Alors donc, pourquoi en arriver maintenant à cette forme de théâtre, théâtre d'éveil spirituel? C'est peut-être effectivement ça que vous souhaitez qu'on développe maintenant. Je ne vais pas prendre l'antenne pendant 3 heures, hein, mais si vous me lâchez, je la tiens pendant 3 heures. Hein. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que moi, mon souci, c'est d'aider des gens qui sont comme moi, qui ont mis leur vie à l'envers à un moment donné. Il y a un divorce, il y a une faillite, il y a un contrôle fiscal, il y a un procès avec un voisin. Il y a effectivement une perte d'emploi, etc., etc. Enfin, les tracas que l'on croise parfois dans sa vie qui nous mettent à l'envers. Et on rentre dans un système de pensée, d'action qui n'est que réaction, justement. et qui fait que le mal va de mal en pis parce qu'on a perdu un certain nombre de bon sens, parce que notre vie intérieure qui produit, comme on l'a dit tout à l'heure, un certain vie extérieure, plus on est en désordre et en cafard dedans, plus effectivement on va créer du désordre et du cafard à l'extérieur. Et très souvent on le voit dans ces situations-là, ça se réglemente autour d'un procès, ça se réglemente autour d'une guerre qui n'amène jamais rien de bon, parce qu'effectivement, il y a toujours un coupable, une victime. Et donc, moi, déjà, le principe, c'est de dire, moi, je suis passé par là, j'ai connu ça, donc j'aimerais effectivement, à travers ce théâtre, aider des gens qui ont mis leur vie en dessous. Et donc, de les accompagner dans une méthode en disant, c'est possible d'avoir un autre type de vie. C'est possible de se servir de ça, non pas comme une malchance, mais comme une chance. Moi, je veux dire, ma plus grande chance, je vais le dire comme ça, c'est un peu particulier, hein, j'aimerais pas choquer les auditeurs, mais ma plus grande chance, ça a été d'avoir cette épreuve à 30 ans, d'avoir cette dette à 30 ans. Parce que c'est ce qui a fait toute ma vie maintenant. Autrement, ma vie serait peut-être fade et sans intérêt. Ma vie, elle est belle maintenant. J'ai une belle vie. Donc, on va bien voir effectivement que...
Je ne pense pas que cela choque. Ça me fait penser au livre de Lilou Massé, « J'ai perdu mon job et ça me plaît ». Je suis célibataire et ça me plaît. Et c'est une autre façon de voir les épreuves, de les voir comme une occasion de grandir et de s'améliorer.
Une occasion de grandir et de s'améliorer. Et c'est ce que j'aimerais faire comprendre aux gens à travers ce théâtre d'éveil spirituel, c'est que ce n'est pas une fatalité immuable, le fait de se retrouver dans une difficulté, ça peut être une chance de vie, parce qu'on va essayer de comprendre comment ça s'est passé. Et ce que je propose, moi, comme atelier, c'est à la fois issu de mon expérience, je suis passé par là, j'ai trouvé les moyens. Et c'est issu d'enseignements que j'ai reçus. Cet enseignement, il est codifié à travers un certain nombre de méthodes qui nous permettent d'avoir une connaissance précise de soi. Qui suis-je ? Je vais répondre à cette question. C'est pas simple si on n'a pas fait un travail. Ça s'apprend, ça. Le bonheur, le bien-être, l'équilibre, on ne nous l'a pas donné, ça s'apprend. Il faut retourner sur un banc d'école. Donc, moi, je propose pas un banc d'école, mais une scène de théâtre. Donc, comment ça va fonctionner ? C'est relativement simple. C'est qu'on vient avec ce qu'on appelle un échantillon de vie. C'est-à-dire un échantillon de vie, imaginons, on est quelqu'un qui est confronté à un divorce. Donc, ce n'est pas le divorce qu'on va gérer, mais c'est le matin, encore, il vit avec son conjoint, il partage encore la même maison, ils sont en instance de divorce et c'est la guerre entre eux. Et le matin, effectivement, la dame, elle est là en train de faire son petit déjeuner dans sa misère, l'homme descend, il ne lui dit pas bonjour, il se tire comme ça. Et ça crée une douleur. OK ? Donc, voilà. De là, cette douleur-là va enclencher, effectivement, le fait qu'on va avoir toute la journée la rancœur contre son mari.
Et vous faites le geste que les auditeurs ne voient pas, que je vois très bien, avec les mains sur la gorge.
Les deux mains sur la gorge. On prend
Voilà.
Donc, on va utiliser cet événement-là. On a, par exemple, pour prendre un autre exemple, une guerre avec un voisin. Et de nouveau, le matin, il a encore mis 50 kilos de fumée devant notre porte, parce qu'effectivement, on est en guerre. Voilà, on va partir de l'événement. Et on va essayer de comprendre, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé dedans. Quelle est la douleur et comment on pourrait s'en sortir pour régler cet événement-là. Donc, effectivement, on va utiliser quoi ? On va utiliser comment on fonctionne dans le théâtre. Dans le théâtre, il y a un certain nombre de choses. On trouve un dramaturge qui écrit ce qui se passe. On trouve un acteur qui l'interprète. Il y a des actes, il y a des scènes. Il y a un événement qui a été à dénouer. Ben, on va partir là-dessus, c'est-à-dire que la troisième personne, on va commencer le dramaturge, je vais commencer à écrire soigneusement, et je ne vais pas rentrer dans le détail. Hein. On va écrire soigneusement ce qui s'est passé, et progressivement, l'acteur, il va venir jouer ce qui s'est passé. Ce qui fait que, on va dire, cette relation de corps à cœur est importante, parce que le corps sait effectivement là où on souffre, que l'esprit, des fois, a du mal à mettre en mots.
Et le corps,
quand il va se contracter, ou quand il va crier, ou quand il va délivrer, effectivement, un geste, on va regarder ce qu'il fait, on va le laisser faire, et il va, effectivement, par un système d'images intérieures qui sont puissantes, nous révéler de quoi on souffre maintenant. Et donc, ce processus-là, je ne vais pas tout le dévoiler, il faut venir, d'ailleurs, je ne vais pas tout le dévoiler, mais pas comme ça, on va essayer de comprendre quel scénario s'est mis en place, quels sont les nœuds, comment on va pouvoir le dénouer, essayer de s'accueillir et non pas de se reprocher. Donc, comme j'ai essayé de le faire, moi j'ai tenté de le faire, et comme je l'ai fait pendant des années pour me récupérer après mes problèmes, m'accueillir en tant que personne que je commence à comprendre et à connaître, et cet accueil qui fait qu'il est non jugeant mais plein de bienveillance sur soi-même, délivre effectivement une autre facette de nous qui nous permet de retrouver du bon sens pour agir. La différence entre le fait de réagir sur un événement, tiens, j'ai bien fait de lui dire ça, ça me fait du bien, eh bien, effectivement, c'est une réaction qui attire un certain nombre d'assouvissements, on va dire, c'est comme un animal.
Oui.
Oh, je m'en souviens, j'ai bien fait de lui dire ça. Donc, ça crée un assouvissement, ça ne nous rapproche pas de l'autre, hein, ça nous chame de la guerre, et ça ne règle souvent pas le problème. Au contraire, un être qui est en paix au fond de lui-même, parce qu'il s'est accueilli, parce qu'il a compris sa responsabilité dans l'action, comme il a compris effectivement qu'il a fait le clair au fond de lui-même, va permettre d'agir, trouver un acte conscient de ce qu'il est. L'acte, la grande différence, c'est que non seulement il nous réjouit, parce qu'on a fait une traversée, on est passé à travers ce qu'on a de pire de nous, on l'a accueilli, effectivement, on sort effectivement avec quelque chose, une sorte de réjouissance, parce qu'on a, et on fait éclore quelque chose, une qualité qui est en nous, qui fait partie, on va dire, nous dans notre jargon, de la nature supérieure de notre être. Et donc cette nature supérieure a un discernement pour pouvoir agir sans avoir besoin de blesser l'autre, mais qui va régler le problème. J'aurais plein d'exemples à vous citer, mais voilà.
Et vous les proposez en groupe, en individuel, les deux peut-être ?
Les deux peut-être. Oui. Il y a des gens qui auront besoin effectivement de l'intimité, et donc qui auront difficulté à se livrer en groupe, tellement des fois les problèmes que l'on a, on en a honte, et on ne devrait pas en avoir honte. Hein. J'ai commencé, moi, il y a quelques années, quand vous m'aviez interviewé sur la gestion de l'argent, les gens ont des difficultés quand ils sont en difficulté avec l'argent. Non, donc il y en a besoin, des fois, d'être en individualité.
Oui.
Et puis, il y a des gens, effectivement, pour qui ça sera nécessaire qu'on soit dans un groupe, parce que le groupe a cette force-là d'entraide et de contagion qui est nécessaire. Donc, moi, je propose les deux choses.
D'accord. Je voulais vous demander votre regard aujourd'hui sur le monde.
Ah! Écoutez, je vais dire une chose, moi, cet homme, il est parfaitement bon, c'est un bel être, c'est puissant. C'est, alors qu'on dit, oh, les gens, moi, je trouve que l'homme est quelque chose qui est bon. D'ailleurs, la place qu'il a dans l'évolution de la vie est magnifique. Hein. On va dire, il vient après un règne qui a été minéral, végétal, animal, et donc il est face à d'autres règnes, on n'a pas fini notre évolution. Donc il contient, lui, la puissance créative, la puissance de faire évoluer les choses. Et donc tout l'enjeu part de là. Moi, je trouve que l'homme, c'est quelque chose qui est magnifiquement grand, parce que si on savait qu'à travers les petits tracas que l'on a, et qui sont cachés des perles qui lui permettent d'être un géant, autant il est petit dans sa manière de réagir, mesquinerie, en levant le poing des fois sur des ronds-points, en disant « moi, j'ai mal », ce qui est juste, hein, on ne peut pas cacher ça, on part tous comme ça. Hein. D'essayer de comprendre le système et d'être un géant dans les solutions qu'on propose, oui, effectivement, moi je dis l'homme, c'est quelque chose qui est magnifiquement bon. On va en avoir besoin. Je crois effectivement, on regarde l'état de la planète, hein, c'est une catastrophe, hein, faut pas rêver. Hein. Donc on va vers un réchauffement climatique qui est préoccupant, on est dans une économie qui est délirante, hein. On va pas parler de l'argent maintenant, mais enfin, oui. C'est assez délirant. On a des problèmes d'accueil de migrants, on a des surconsommations. Le pape disait, avant Noël, il y a 8 millions, alors je vais peut-être me tromper de chiffre, mais c'est pas grave, il y a 8 millions des gens, ou 80 millions, c'est pas grave, parce que c'est l'échelle de valeur qui est importante, qui vont manquer, qui vont crever de faim pendant Noël. Et il y a 77 millions, j'en veux dire, donc pratiquement pareil, mais un peu moins, de gens qui vont crever de trop manger. Donc il nous disait ce message-là en disant « soyez plus juste dans votre consommation
oui. ». C'est l'écart extrême entre la très grande richesse et la très grande pauvreté.
Et qui s'écarte de plus en plus.
Oui.
Moi, quand j'étais jeune, je me baladais dans Vienne, qui était ma ville, il n'y avait pas de SDF. Il y avait les clochards, qui étaient souvent des vieux philosophes, qui effectivement avaient fait ça par philosophie. Il n'y avait pas de SDF. Maintenant, il y a des SDF. Il y a des migrants à nos portes, il y a des gens qui souffrent. Donc c'est vrai qu'on a intérêt effectivement à se préoccuper de la planète, de se préoccuper de nos semblables, d'accueillir des gens qui vont être différents, de faire beaucoup plus de mixage, beaucoup plus de société plurielle. Et on a besoin d'être juste, on va vers un peur du totalitarisme. Oui. Donc effectivement, moi je dirais c'est mettons-nous en ordre dedans. Pour créer un ordre dedans.
D'accord.
Mettons-nous en paix dedans, c'est possible, pour créer une paix dehors.
Et c'est presque le mot de la fin. Est-ce que vous auriez un autre mot de la fin ?
J'aime la vie. La tâche est considérable quand on voit ce qu'on a à faire, mais je prendrai l'image de Pierre Rabhit sur le colibri, qui est ce petit oiseau qui est dans le fin fond d'une forêt qui est en flamme et qui fait la navette entre le ruisseau et le feu pour mettre sa petite goutte. Et il y a un gros oiseau qui est là, qui le regarde passer et qui lui dit « Mais colibri, t'es malade, t'y arriveras jamais. » Et lui dit « Oui, mais j'aurais fait ma part. »
Oui.
Donc moi je tente de faire ma part avec mon petit théâtre.
La petite part du colibri.
La petite part du colibri.
Merci Jean-Luc.
Merci Myriam.
C'était un plaisir. Et alors, ceux qui voudraient vous rencontrer, donc vous êtes actuellement dans l'Isère, quelle commune ?
Alors, je suis à Saint-Sauveur. C'est un joli nom, Saint-Sauveur. Donc, voilà. Et pour m'encontrer, je donne le numéro de téléphone. Qu'est-ce qui est plus simple ? Je vais le dire doucement. C'est mon portable. C'est le 06 73 15 57 34. Je suis ouvert à tous. Et comme c'est une radio qui est plutôt du côté du sud-ouest,
oui,
c'est ça. Si jamais vous trouvez 5-6 personnes qui sont intéressées pour faire ce théâtre, je viens.
Ah ben c'est une bonne nouvelle. Et puis on va donner aussi l'email qui est itcy@orange.fr.
Voilà. Et un grand merci.